Les pompiers en ont ras-le-bol. En plus des multiples interventions sur des incendies, ils se font toujours caillasser. Vous entendrez leur colère. Il faut rester mobilisé pour lutter contre des incendies qui ont un impact considérable sur la biodiversité. Hubert Géraud du WWF était ce matin notre invité. Du retard dans l'acheminement des colis postaux par manque de liaison aérienne. L'OPT a dû avoir recours à la voie maritime. Explication dans ce journal. En métropole, François Bayrou poursuit ses consultations à deux jours de sa déclaration de politique générale. Le Premier ministre cherche les équilibres pour éviter la censure de son gouvernement. Et puis Gérald Darmanin veut s'attaquer aux conditions de détention des narcotrafiquants. Le ministre de l'Intérieur annonce que les 100 plus gros d'entre eux seraient détenus dans des prisons de haute sécurité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Comme tous les lundis, rendez-vous dans le magazine des sports pour prendre connaissance de l'actualité sportive du week-end. Un magazine un peu spécial puisque la deuxième partie sera consacrée à la rétrospective de l'année 2024 sportive en Nouvelle-Calédonie avec Mickaël Juneski. Avant cela, Léo Fichou, qui nous présentera ce soir, lui, la rétro consacrée à une année de sport dans le monde et en métropole. Ce sera à 17h. Avant cela, Léo, on reviendra aussi dans le Mag des Sports sur les principaux résultats du week-end. C'était notamment un week-end de rugby, de Champions Cup en rugby, Coupe d'Europe.
Coupe d'Europe de rugby avec le Stade Toulousain, Toulon et l'Union Bordeaux-Bègles qui ont continué d'impressionner sur cette compétition. Troisième succès en trois matchs pour les trois clubs. L'UBB, en revanche, l'UBB a mis 11 essais et 69 points au Chiefs d'Excel. En revanche, le Stade de Rochelet s'incline pour la première fois cette saison sur la scène européenne.
Et puis on fera un point sur le tennis depuis hier. Le tournoi à l'Open de Melbourne a débuté. Et
oui, hier, 4 des 7 Français sur les cours se sont qualifiés pour le deuxième tour de cet Open d'Australie. Notamment une remontada de Quentin Alice. Il était mené 2-7-0 et s'est finalement imposé en 5-7. On fera le point sur les résultats et les matchs du jour puisqu'il y a 6 tricolores aujourd'hui qui tenteront de rejoindre le deuxième tour.
Voilà, le lundi, beaucoup de sport sur Radio Rythme Bleu. Je vous rappelle la rétro sport à la fin de ce journal consacré au sport en Calédonie. Et puis à 17h, la rétro sur la scène nationale et internationale. Les rendez-vous sport du lundi sera du Rythme Bleu. Rappelons que ce week-end a été marqué par un accident mortel de la circulation sur la RP5 à Saraméa. La victime est le passager avant d'un véhicule dans lequel se trouvaient 4 personnes et dont le conducteur a perdu le contrôle. Le passager a été éjecté de la voiture. Impossible d'appeler des secours puisque l'accident a eu lieu dans une zone non couverte par le réseau de téléphonie mobile. Les autres occupants du véhicule ont dû transporter elle-même la victime gravement touchée jusqu'au centre de secours de la Foix. Arrivé sur place, l'homme est décédé peu de temps après sa prise en charge. Les 3 autres passagers légèrement blessés ont été évacués vers le Médipôle hier. Et puis dans l'actualité politique et institutionnelle, je vous rappelle qu'il n'y a toujours pas de vice-président du gouvernement. Depuis l'élection d'Alcide Ponga à la présidence mercredi dernier, il n'y a pas eu de tentative d'élection d'un vice-président. À ce jour, aucune convocation n'est parvenue aux élus, ce qui signifie que les discussions politiques de ces derniers jours n'ont visiblement pas permis aux partis de se mettre d'accord. Rappelons que sans vice-président, le gouvernement deviendra gouvernement de plein exercice mercredi de cette semaine. Et c'est vendredi que les secteurs devraient être attribués, ce qui veut dire que le 18e gouvernement devrait être pleinement opérationnel à la fin de cette semaine. Parlons maintenant du ras-le-bol général des sapeurs-pompiers qui doivent réaliser dans des conditions extrêmement difficiles ces dernières semaines leurs interventions. Non seulement ils doivent mobiliser des moyens et de l'énergie pour éteindre les incendies qui pourraient être évités, mais en plus, Mickaël Juneski, ils sont également victimes de cibles de caillassage.
Oui, ce week-end encore, dans le Grand Nouméa, les soldats du feu étaient appelés à intervenir, en plus de la surveillance du feu de Prony, pour des feux à la Tamois, avec des habitations menacées, à la Tontouta, dans le secteur de Kiemanto, en raison d'un écobuage mal maîtrisé, à Nouméa, au centre Raoul Folreau, où un début d'incendie a dû être éteint à 2 reprises, et encore à Saint-Louis, au Mont-d'Or, hier après-midi, où des pompiers sont intervenus pour un départ de feu de brousse dans le secteur de la Thie et où ils ont été la cible de caillassage. Une situation devenue courante et que regrette l'adjudante Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens.
On a les activités courantes de tous les jours, hein. On l'a bien vu dans l'actualité, il y a eu des accidents de la route. Ce que vous ne voyez pas dans l'actualité, c'est toutes les interventions où on porte secours à la population pour les accidents à domicile ou les malaises ou ce genre de choses. En parallèle de cette déjà activité qui est assez dense en soutien au SAMU qui est en sous-effectif, on a une grosse activité incendie de feu de brousse, feu de forêt, qui ont souvent des motifs inconsidérés d'écobuage ou alors de barbecue mal contrôlé dans des zones où c'est interdit. Donc on voudrait faire appel à la population sur cette situation qui nous met tous en danger tous les jours. Et puis l'insécurité. Hier, les collègues du Mont d'Or, en allant éteindre un feu de brousse, ont subi des caillassages. Ça, pour nous, c'est intolérable.
Inconscience de certains, malveillance d'autres, les pompiers sont en première ligne et effectuent désormais leur mission dans des conditions plus que difficiles, d'où ce cri d'alarme.
C'est déjà assez compliqué comme ça, on est un peu en réduction d'effectifs dans certaines communes. Il y a des pompiers volontaires qui acceptent des conditions d'activité avec des réductions de vacations. On a des communes qui sont à demi-salaire. On a consenti à un effort chez les pompiers volontaires pouvoir maintenir l'activité opérationnelle pendant la saison. Et en échange, on subit des caillassages. C'est pas acceptable. Les pompiers qui vont intervenir à Prony essuient régulièrement des caillassages avec les gendarmes à Saint-Louis en traversant. C'est là, à un moment donné, je sais pas comment faire comprendre aux gens que en faisant ça, ben déjà, ils font peur aux pompiers, ils découragent les pompiers, et puis surtout, ben, ils ralentissent les secours et ils nous mettent en difficulté. Donc à un moment donné, quand il n'y aura plus de pompiers, ben, je sais pas comment les gens ils pensent qu'on va gérer la situation. L'Union alerte les pouvoirs publics, mais surtout fait appel au bon sens de la population. Je pense qu'en matière de bêtises en Calédonie, on a fait le tour là depuis l'année 2024. Il faudrait peut-être qu'on prenne des résolutions pour 2025 pour arrêter un peu ça.
L'adjudante Isabelle Marlier, secrétaire générale de l'Union des pompiers calédoniens. Aujourd'hui, les pompiers sont en manque d'effectifs avec des personnels fatigués par ces mois d'activités incessantes. Les soldats du feu espèrent que les Calédoniens prendront conscience aujourd'hui de la gravité de la situation tant que la population gardera le silence et n'agira pas pour mettre fin à ces comportements qui mettent les soldats du feu à rude épreuve.
Et les feux de brousse ont aussi un impact considérable sur la biodiversité calédonienne. Les espèces endémiques sont régulièrement menacées, voire détruites par les flammes. Depuis peu, les associations peuvent intervenir sur certaines missions pour appuyer l'action des pompiers qui sont extrêmement sollicités. C'est ce que nous a dit Hubert Géraud du WWF qui était ce matin notre invité.
Ils sont exténués, on leur demande beaucoup et là je crois qu'on est sans doute à la rupture de leur capacité d'engagement. Les associations peuvent venir en soutien dans le cadre de l'agrément E qui permet, une fois formés, équipés et assurés, d'être réquisitionnés comme ça a été le cas pour nous samedi et dimanche. Et on est envoyé sur des tâches, soit de la surveillance. Pour ce week-end, on a travaillé sur du traitement de fumerolles, de foyers persistants, puisque ce sont des sols très épais où le feu se promène dans les racines et dans un sol très organique, à parfois plus d'un mètre de profondeur. C'était la première fois qu'on était mobilisé sur ce feu. Alors on aurait aimé l'être plus tôt, bien sûr, qu'à la fin du sinistre. Et par contre, il faudrait qu'on soit beaucoup plus nombreux à le réaliser pour vraiment soulager les pompiers, parce qu'on avait quand même des pompiers avec nous sur certains spots. Ben, ces pompiers ont des compétences qui mériteraient de ne pas les mobiliser sur ce type de travail, et que ce soit des associations en nombre qui puissent le réaliser en appui.
Et pour Hubert Géraud, il faut que les institutions mettent davantage de moyens dans la lutte contre les feux de brousse et revoient aussi les stratégies d'intervention.
Carrément, il y a un vrai chantier sur l'amélioration de la lutte contre les incendies en milieu naturel. On a une culture très forte de protection des biens, des infrastructures, à partir de tout ce qui est réseau voirie. On est beaucoup moins préparé et efficace sur les feux de milieu naturel, sauf qu'aujourd'hui, nos aires protégées sont menacées et puis notre source en eau. Et nos ressources en eau, c'est les périmètres de protection de captage d'eau qui sont dans la chaîne, généralement pas facilement accessibles par voirie. Et là, il faut s'interroger de quelle manière on veut être efficace pour préserver l'eau au robinet, pour l'agriculture, pour le tourisme, pour l'industrie. On a réalisé une première étude sur les freins et solutions à l'amélioration de la lutte contre les incendies au niveau calédonien. Et là, on vient de boucler un appel d'offres pour faire du benchmarking, donc d'aller chercher les expériences sapeurs-pompiers à travers le monde, en niveau national et international, pour pouvoir inspirer les dispositifs calédoniens.
Hubert Géraud fait également le constat de l'échec des actions de prévention. Chaque année, les mêmes comportements sont à l'origine des feux. Alors pour lui, il faut sanctionner plus durement les auteurs d'incendies.
Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ce dossier et c'est un échec. On a échoué, on n'arrive pas à sensibiliser. Il y a toujours autant de feux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la sensibilisation, c'est bien. Et puis, à un moment, il faut aussi la répression. Si la société calédonienne ne s'organise pas pour punir elle-même, pour dire ça a de la valeur, tu le brûles, tu nous détruis un patrimoine, les forêts qui ont brûlé dans le sud là ce week-end encore, elles mettront 5 à 7 siècles pour revenir si on ne rebrûle pas. 5 à 7 siècles. Ça veut dire que c'est fini pour nous. On a plus d'un millier d'incendies par an. Combien de gens passent devant les tribunaux et sont condamnés? Extrêmement peu. Donc on envoie un message, vous pouvez brûler en toute impunité. Donc là, il y a un besoin de condamner à un moment les gens qui détruisent le patrimoine du pays.
Hubert Géraud, expert conservation et plaidoyer WWF Nouvelle-Calédonie, qui était donc notre invité ce matin à 7h30. Vous pouvez retrouver cette interview en podcast sur rrb.nc. Notez que dans le secteur de Progny, l'incendie qui est en cours depuis 12 jours maintenant n'est toujours pas éteint, même s'il ne progresse plus depuis la fin de la semaine dernière. Les reconnaissances ont mis en évidence la présence de fumerolles sur site encore aujourd'hui. Des moyens sont donc toujours mobilisés, notamment un hélicoptère bombardier d'eau. On rappelle que le dernier bilan fait état d'une surface de plus de 1650 hectares de végétation ravagée par les flammes. Tout était parti d'un barbecue mal maîtrisé en bord de rivière. Les pompiers ainsi que le RIMAP et la sécurité civile sont toujours sur zone. Le plan ORSEC, feu de forêt de niveau 2, n'est toujours pas levé. Et puis concernant les incendies qui sévissaient hier dans le secteur de Païta, ils étaient éteints mais toujours sous surveillance, que ce soit au haras de la Tontouta, à la Tamois ou au niveau de Quémanteau. L'hélicoptère bombardier d'eau a également effectué des largages pour empêcher la propagation des flammes. Les pompiers de Païta sont toujours mobilisés aujourd'hui pour surveiller ces différents foyers, notamment à la mi-journée où le vent peut provoquer une reprise des feux.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Est-il urgent de faire venir des renforts sanitaires, notamment des infirmières de métropole ? Si vous pensez que c'est urgent, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Plusieurs tonnes de colis bloqués hors du territoire. Nous vous en avons parlé dans nos journaux hier. L'OPT annonce du retard dans les livraisons de fret postal, Léana Colombo.
Et ces perturbations touchent les colis envoyés depuis la France, mais aussi toute la zone Pacifique. Plusieurs raisons sont avancées, dont un problème de coordination avec les plateformes postales internationales et du retard dans le transport aérien. Les colis postés depuis l'Europe entre novembre et décembre étaient par exemple bloqués à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, faute d'avion. Comme solution exceptionnelle, l'OPT a expédié ses 10 tonnes de colis par voie maritime le 23 décembre dernier pour une arrivée prévue fin janvier sur le territoire. Selon Dominique Apicella, directrice par intérim de l'OPT, il s'agit d'une conséquence directe de la crise de mai 2024.
Il y a un peu moins de vols au départ de Calédonie. Depuis cette crise, il y a la liaison Japon qui a été interrompue aussi. Donc nous, comme Paris, avons moins de possibilités de transport en fait. Donc c'est des situations, alors on sait très bien que la fin d'année, tous les ans, c'est un petit peu compliqué. Il y a souvent le fret alimentaire lié aux fêtes. On n'est pas prioritaire en termes d'emport aérien. Donc on s'est retrouvé avec un goulot d'étranglement à Charles de Gaulle. Mais là, avec le nombre de vols qui a baissé, ça ajoute une difficulté supplémentaire.
Même problématique pour les produits en provenance de Nouvelle-Zélande. Les vols Air New Zealand vers la Calédonie sont suspendus depuis juin 2024. 2 tonnes de colis ont donc été envoyées par transport maritime et attendent d'être dédouanées. Dominique Apicella espère que ces perturbations seront vite résorbées, mais n'exclut pas de recourir à nouveau aux fret maritimes.
On est vraiment mobilisé avec les acteurs de la poste métropolitaine, avec les compagnies aériennes pour trouver des routes différentes pour envoyer le plus possible. Après, les soutes des avions ne sont pas extensibles, mais on surveille ces éléments-là de très près parce que c'est important pour nous que les colis en import et en export arrivent dans les temps. On préfère toujours prendre l'aérien parce que ça va plus vite, mais par voie maritime, c'est une solution qu'on garde sous le coude quand même, parce que c'est toujours mieux que ça arrive par voie maritime que ça n'arrive pas du tout. Je rappelle qu'au mois de mai-juin, la France avait arrêté de vendre la destination calédonienne. Donc on veut vraiment éviter ça, et c'est un petit aller, mais ça reste une solution qu'on déclenche au cas par cas.
Les équipes de l'OPT indiquent s'engager à traiter rapidement le fret postal dès son arrivée sur le territoire. Les clients peuvent suivre l'avancée des colis sur la page actualité du fret postal sur le site internet de l'OPT.
À 11h45, une première pause dans ce journal. On va se retrouver pour évoquer l'actualité en métropole notamment et cette préparation délicate de la déclaration de politique générale du Premier ministre.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, Leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS 170 059.
Vous cherchez une expérience unique à Nouméa ? Découvrez l'Entrecôte au 360. Un restaurant panoramique avec une vue imprenable sur le lagon et la ville. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches pour le déjeuner. Et à partir de 17h les vendredis et samedis, réservé au 23 90 90.
La semaine dernière, j'ai encore passé 3 jours à courir après mes factures impayées.
Attends, mais avec ce Blue, c'est automatique. Tu cliques sur relancer tes factures et paf, toutes les relances partent direct par mail à tes clients. Et si tu veux que certaines ne soient pas envoyées, tu les enlèves facilement.
Sérieux ?
Et c'est aussi simple pour gérer tes stocks, créer des devis, gérer ta caisse. Je te parle même pas des exports comptables.
Mais non ! Faut appeler qui pour une démo ?
Va sur soblue.nc. S-O-B-L-O-O. Et fais gaffe, tu pourras plus t'en passer.
Soblue.nc ? Ok, j'arrive !
Soblue, la solution locale qui révolutionne votre gestion commerciale.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole, et va-t-il arriver à éviter une motion de censure ? C'est tout l'enjeu de la déclaration de politique générale que prépare le Premier ministre, qui a multiplié pour cela les consultations. François Bayrou cherche en effet à se prémunir de la contestation des partis de gauche, notamment les socialistes, les communistes et les écologistes. Et il pourrait bien pour cela, et pour assurer la stabilité de son gouvernement, leur donner des gages. Jacques Serré pour Europe 1.
François Bayrou multiplie les rendez-vous, tout comme le ministre de l'économie, Éric Lombard. L'ancien directeur général de la Caisse des dépôts est à la manœuvre pour amadouer la gauche, car c'est à ce stade le pari de l'exécutif. Pour rester à Matignon, pour ne pas connaître le même sort que Michel Barnier, François Bayrou veut trouver un accord de non-censure avec les socialistes, les écologistes et les communistes. Le maire de Pau prépare son discours de politique général seul. Il veut s'approprier son discours, confie l'un de ses proches. Mais en coulisses, les dernières tractations laissent apparaître qu'il serait prêt à faire des concessions importantes. Il vaut mieux un budget imparfait qu'une nouvelle crise politique, justifie un ministre de poids. Ainsi, la réforme des retraites pourrait être mise en pause pendant 6 mois, selon certaines sources, afin de renégocier notamment l'âge légal de départ, fixé aujourd'hui à 64 ans. Une potentielle évolution qui contenterait la gauche, mais qui susciterait l'incompréhension à droite. « Je ne conduirai pas une procédure de suspension ou d'abrogation », prévient le président du Sénat, Gérard Larcher. À 48 heures de son grand oral, François Bayrou cherche toujours son équilibre pour ne pas chuter.
L'actualité politique, c'est aussi ce grand entretien que Marine Le Pen a accordé au JD News. La chef de file des députés Rassemblement National revient sur les grands dossiers du moment. Mayotte, la présidence d'Emmanuel Macron. Mais elle parle aussi longuement de son père et des rapports compliqués qu'elle a entretenus avec lui. « Je ne me pardonnerai jamais de l'avoir exclu du parti en 2015 », dit-elle notamment dans cet entretien. Gérald Darmanin, lui, part en guerre contre les conditions de détention des narcotrafiquants. La plupart du temps, ils bénéficient d'un téléphone dans leur cellule, ce qui leur permet de continuer à gérer leurs affaires. Ce sera bientôt terminé, si l'on en croit les déclarations du nouveau ministre de l'Intérieur chez nos confrères de LCI.
« Aujourd'hui, on isole certains trafiquants parmi d'autres détenus. Et on voit bien que ça ne marche pas, ce système, si j'ose dire, de mixité, qui consiste à mettre des terroristes, des criminels, des gens qui ont, avec leur voiture, écrasé des gens qui ont tapé leur femme, et on les met tous dans la même prison. Voilà. Ils ne sont pas tous dans la même dangerosité, et en tout cas, on ne les adapte pas tous à la sécurité de la même manière. Donc nous allons prendre d'abord une prison française, on va la vider des personnes qui y sont, et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolé, totalement sécurisé, avec des agents pénitentiaires particulièrement formés, des 100 plus gros narcotrafiquants, dans une prison, et montrer que quand on est en prison et quand on est un grand narcotrafiquant, on ne peut pas téléphoner et on ne peut pas avoir une vie agréable.
Gérald Darmanin, qui est donc le ministre de la Justice, qui était interrogé par nos confrères de LCI. En bref, une femme gravement blessée pendant qu'elle faisait son jogging. Les faits se sont passés dans le Gard. Cette femme de 44 ans et mère de 5 enfants a été poignardée par un inconnu qui lui a asséné plusieurs coups de couteau dans le dos et à la gorge. Elle est à l'hôpital dans un état qualifié de stable. Son agresseur n'a pas été interpellé. L'affaire Boualem continue d'empoisonner les relations franco-algériennes. Cet influenceur qui possède la double nationalité a été renvoyé par la France dans son pays d'origine pour les propos anti-français et haineux diffusés sur les réseaux sociaux. Mais Alger a refusé de l'accueillir et l'a immédiatement renvoyé vers la France où il est en centre de rétention administrative. Sa période de rétention a été prolongée de 26 jours jusqu'à son procès, prévu pour provocation à commettre un crime. Son avocat a fait appel de cette décision. Antoine Bienvaux.
Dans un communiqué, les deux avocats déplorent un jugement rendu dans une situation politique et diplomatique tendue dont leur client aurait fait les frais. Une allusion directe aux tensions entre Paris et Alger qui entourent l'expulsion de cet influenceur depuis 3 jours. Les avocats du suspect s'en prennent même directement à Bruno Retailleau, l'accusant d'entretenir un contexte ultra répressif vis-à-vis des personnes étrangères. Il demande donc ce soir la sortie du centre de rétorsion administrative de leur client. Un appel qui, selon l'ancien magistrat Georges Fedec, a une réelle chance d'aboutir.
Moi, je ne vois pas très bien comment le juge de la liberté et la détention pourra maintenir longtemps cette décision, parce qu'encore une fois, ça n'est pas une détention provisoire, la rétention administrative. C'est simplement un régime qui permet à l'autorité préfectorale d'organiser le départ. Si le départ n'est pas possible, on risque de voir une main levée de cette décision, voire une assignation à résidence, voire une remise en liberté pure et simple.
Un abandon des charges qui, s'il est prononcé, pourrait, selon Georges Fenech, servir à mettre la pression aux Algériens. Car depuis hier, Alger affirme ne pas vouloir reprendre le suspect sur son sol pour lui permettre, entre autres, de préparer sereinement son procès prévu en France le 24 février. Or, s'il n'y a plus de poursuite, eh bien, il n'y aura plus de procès et l'argument de l'Algérie deviendra ainsi caduque. Le résultat de l'appel des avocats devrait en tout cas être connu dans les prochains jours.
Un mot de l'actualité de Mayotte. L'archipel vient de vivre un nouvel épisode météo compliqué. Il a été touché par une nouvelle dépression baptisée Dikeledi. Elle n'avait heureusement pas l'intensité du cyclone Chido, mais elle a apporté de très fortes précipitations avant de s'éloigner. Les risques de glissement de terrain restent importants, mais à cette heure, aucune victime n'a été recensée. 11h52, dans un instant, nous allons ouvrir notre magazine des sports du lundi avec une première partie consacrée aux résultats sur la scène nationale et internationale. Et une deuxième partie, ce sera la Rétrosport 2024 en Calédonie avec Mickaël Juneski. À tout de suite.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Découvrez l'authenticité de la pizza artisanale cuite au feu de bois chez votre pizzeria Lantanas Pizza au Vallon d'Or, ouvert du mercredi au lundi de 17h30 à 20h30 et 21h les week-ends. Commandez vite au 41 54 69. Facebook Lantanas Pizza.
Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, retrouvez toute la magie du groupe Pink Floyd le temps d'une soirée unique. Another Pink Experience met un point d'honneur à interpréter fidèlement les immenses compositions telles que Dark Side of the Moon, Comfortably Numb, Wish You Were There, The Wall et bien d'autres encore. 8 musiciens, chanteurs et chanteuses pour offrir aux fans inconditionnels de Pink Floyd l'occasion de revivre durant 2 heures leur univers musical. Vendredi 17 janvier, Wonder Beach, ouverture des portes à 18h, début du concert à 19h30. Billetterie sur ticket.nc. Prévente 2600 francs, sur place 3000 francs.
Et jusqu'à mercredi, on vous fait gagner des places. Vous envoyez un vite au 31 et 46. On vous souhaite une bonne chance. C'est 148 francs le SMS.
You by Kotex, une gamme de protection hygiénique qui répond à tous vos besoins. En janvier, pour le mois de la solidarité féminine, achetez vos protections hygiéniques You by Kotex et soutenez une jeune femme dans le besoin.
Plus d'infos sur la page Facebook Le 4.
Toute l'info en 3 lettres. RRB.
Et voici à présent le magazine des sports. Et on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et commençons le magazine des sports du lundi par du football et la 17e journée de Ligue 1 qui s'est achevée ce matin. Le PSG et l'OM enchaînent. Le Havre et Montpellier continuent, eux, de sombrer, Léo Fichou.
Les Parisiens et les Marseillais sont tous deux invaincus depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues. Ce week-end, le PSG a battu Saint-Etienne 2-1 et conforte donc sa place de leader. Même score pour l'OM contre Rennes qui profite du nouveau faux pas de Monaco 2-2 contre Nantes pour occuper seule la deuxième place de la Ligue 1. En bas du classement, Montpellier et Le Havre continuent effectivement leur saison cauchemardesque. Défaite du MHSC 3-1 contre Angers et défaite également des Havrais 2-1 face à Lens. Les autres résultats, victoire 2-1 de Strasbourg à Toulouse. Nice s'est imposé 4-2 sur Reims. Brest a dominé Lyon 2-1 et enfin pas de vainqueur entre Auxerre et Lille. Le score 0-0.
Et puis toujours en football, c'était aussi la finale de la Supercoupe d'Espagne ce matin et malgré un but d'Mbappé, le Real Madrid s'est incliné largement sur le Barça.
Une défaite 5-2 des Madrilènes malgré effectivement l'ouverture du score de l'attaquant français dès la 5e minute de jeu et également l'expulsion de Szczęsny, le gardien barcelonais à la 56e. Écoutez le coach du Real, Carlo Ancelotti, il ne retient qu'une seule chose de ce match. Ce soir, je ne retiens rien, sinon le match de Kylian Mbappé. Il a fait un très bon match, il a marqué. Pour ce qui est du reste, il faut tout oublier et aller de l'avant.
Malgré le très bon match d'Mbappé, donc c'est bien le Barça qui remporte son 3e Classico consécutif, victoire 5-2, et par la même occasion, sa 15e Super Coupe d'Espagne.
Et puis on va passer au rugby maintenant avec un week-end Coupe d'Europe en demi-teinte pour les clubs français.
5 victoires et 3 défaites en Champions Cup. Dans le groupe 1, d'abord, l'UBB et le Stade Toulousain ont enchaîné un 3e succès en 3 matchs. Victoire écrasante de Bordeaux sur les Chiefs d'Exeter, 69-17. Et victoire des Toulousains, 20-8 sur les Sharks. Dans le groupe 4, Toulon s'impose également pour la 3e fois consécutive, 33-21 sur les Harlequins. En revanche, le Racing 92 s'est incliné à Glasgow, 19-29. Dans le groupe 2, défaite de La Rochelle 14-16 contre le Leinster, qui est leader de ce groupe, et de Clermont 21-40 contre Basse. Enfin, dans le groupe 3, victoire du Castres Olympique 49-10 sur les Bulls, franchise sud-africaine, et du Stade Français 45-35 sur les Saints de Northampton.
Allez, on va passer au tennis avec la première journée de l'Open d'Australie. C'est évidemment le tournoi dans la région qui a souri aux Français, un peu moins aux Françaises.
On va commencer par les mauvaises nouvelles. Lucas Pouille s'est logiquement incliné contre la tête de série numéro 2 du tournoi, l'Allemand Alexander Zverev. Chez les dames, ça ne passe pas non plus pour Diane Parry et Chloé Paquet. En revanche, les bonnes nouvelles viennent d'Hugo Gaston, d'Arthur Fils, d'Hugo Humbert et aussi de Quentin Alice, qualifié pour le deuxième tour. On notera que Quentin Alice s'est imposé en 5-7 sur l'Australien Adam Walton, alors qu'il était mené 2-7-0. On l'écoute.
Ça a été long parce que voilà, 6-4-6-4. J'ai sauvé des balles de break dès le premier jeu du troisième. J'étais pas forcément au mieux. Lui jouait vraiment bien. J'ai tenu grâce à mon service un break à la fin du troisième, un peu sorti de nulle part. Ça me relance dans le match. Et après, j'ai vraiment très très bien servi. On a eu peu d'occasions de se breaker. Je suis monté un peu en puissance. J'ai un tout petit peu mieux retourné au quatrième et au cinquième. C'était mieux tennistiquement à la fin, donc je suis content de m'être accroché et que mon service m'ait permis de tenir pour pouvoir mieux jouer en fin de match.
Et ce lundi, on retrouvera 6 tricolores sur les courts de Melbourne, dont un duel entre Caroline Garcia et Naomi Osaka, ex numéro 1 mondial et vainqueur du tournoi australien en 2019 et 2021. Chez les dames, il y aura aussi Léolia Jean-Jean, issue des qualifications. Enfin, chez les hommes, Arthur Hinderknecht affrontera Frances Tiafoe, tête de série numéro 17. Alexandre Muller, Arthur Cazot et Benjamin Bonzi seront eux aussi sur les courts à Melbourne cet après-midi.
Allez, on va changer d'univers, Léo Fichou, après les chaleurs de Melbourne, la fraîcheur de la neige en Suisse.
Clément Noël s'est régalé sur le slalom d'Adelboden en Suisse. Le Français a décroché déjà sa 3e victoire de la saison. La première depuis son entorse à la cheville droite, c'était en décembre. Du côté du biathlon maintenant à Oberhof, en Allemagne, les Français, eux aussi, ont régalé. Triplé tricolore sur la course sprint samedi avec la victoire de Quentin Fillon-Maillet devant Fabien Claude et Emilien Jacquelin. Chez les dames, Lou Jean Monod s'est imposé sur la poursuite. Et enfin, sur le relais mixte, les Bleus ont terminé 2e.
De la voile, et après 63 jours de course maintenant sur le Vendée Globe, Charlie Dalin est vraiment proche de l'arrivée.
À bord de Massif Santé Prévoyance, le skipper, annoncé comme grand favori de cette édition, n'est plus qu'à 360 000 nautiques de l'arrivée, soit environ 670 km des Sables d'Olonne. Charlie Dalin est toujours suivi de près par Johan Richomme sur Paprec Arkea. 160 000 nautiques séparent les deux hommes. En troisième position, pas de changement. Sébastien Simon, à bord de Groupe Dubreuil, est à 840 000 du leader. Il navigue actuellement près de l'archipel portugais des Açores.
Et puis on va terminer cette première partie du MAC des sports par les sports mécaniques avec 7 étapes sur 11 qui ont été courues sur le Dakar. Daniel Sanders continue de dominer la catégorie moto.
L'Australien s'est une nouvelle fois imposé ces dernières heures. Il a remporté sa 5e étape sur ce Dakar qui, on le rappelle, se déroule en Arabie Saoudite. Daniel Sanders possède 15 minutes et 33 secondes d'avance sur son dauphin, son premier poursuivant. Le premier français, Adrien Van Beveren, complète le podium. Il est 3e à 26 minutes du leader. Dans la catégorie auto, c'est le Brésilien Lucas Moraes qui a remporté la 7e étape. Au classement général, le Sud-Africain Henk Lategan est toujours en tête.
En 2024, le monde sportif en Calédonie a souffert aussi des exactions, mais il y a aussi de belles performances, voire des exploits. On va revenir sur cette année sport en Calédonie 2024 avec Mickaël Juneski dans un petit instant.